1 Rois, chapitre 3, 1 à 14. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David, en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. » Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux, qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter, pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu me demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Jacques, chapitre 1. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Dans ces deux textes, il est question de sagesse, vous l'aurez remarqué, sagesse, connaissance, une sagesse qui vient de Dieu. Et on va essayer de comprendre ce matin quelle est cette sagesse dont il est question, cette sagesse que Dieu accorde. Et je vous suggère que ces deux textes, de manière très différente, nous montrent que nous invitent à désirer, à demander et à cultiver cette sagesse. C'est une sagesse donc qu'on peut désirer, qu'on peut demander, qu'on peut cultiver. Et on va examiner à la suite ces trois aspects. D'abord donc, désirer la sagesse. Alors je reviens à notre premier texte, du coup, pour établir un peu le contexte. Nous sommes au Xe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes quelques années seulement après la mort du grand roi David, illustre roi d'Israël, et c'est son fils Salomon qui règne désormais en tant qu'héritier à Jérusalem. Alors Salomon est un personnage biblique relativement connu, et lorsqu'on évoque la vie de Salomon, on a tendance à diviser sa vie en deux parties très nettes. Il y a le Salomon du début, qui a plutôt bien commencé, fidèle, sage, plein de grands projets, et puis le Salomon qui a mal terminé, polygame, idolâtre, et qui s'est écarté de diverses manières de la volonté de Dieu. En réalité, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples, parce que dès le début du récit biblique, à propos de Salomon, plusieurs indices nous sont montrés qui montrent certains choix discutable et voire regrettable du jeune héritier royal. Alors par exemple, c'est assez discret, mais au début du chapitre 3, premier verset, on a cette mention du mariage de Salomon et de la fille du Pharaon. Et quand on lit ça, spontanément, on a tendance à voir ça comme un signe supplémentaire de la gloire, de la grandeur de ce jeune roi Salomon. C'était les William et Kate de l'époque, il a épousé la fille du Pharaon, c'est magnifique. Un signe supplémentaire de son prestige. Mais il n'est pas sûr que pour le narrateur de ce texte, cette mention soit si positive que cela. La loi révélée par Dieu à Israël, la loi de Moïse, interdisait explicitement le mariage d'un ou d'une Israélite avec des personnes qui adoraient d'autres dieux. Ce n'est pas une question d'ethnicité, mais une question de foi. Et c'était vraisemblablement, très vraisemblablement, le cas de la fille du Pharaon. Et d'ailleurs, la suite du récit montrera que lorsque Salomon épousait des femmes étrangères, elles ne renonçaient pas à leur divinité. La loi de Moïse, par ailleurs, mettait en garde explicitement les rois d'Israël à toute alliance avec les rois d'Égypte. Or, à l'époque, un mariage entre deux familles royales, c'était une alliance politique. Cette interdiction, on la trouve en Deutéronome 17, verset 16. Et puis, le narrateur glisse un peu en passant, subtilement, l'Ancien Testament est souvent très subtil, il glisse que ce mariage a eu lieu avant que Salomon n'accomplisse le projet que son père lui avait laissé en héritage. Le grand projet que David avait transmis à son fils Salomon, c'était celui de construire un temple pour l'Éternel. Or, on lit à la fin du verset 1 que Salomon l'installa, c'est-à-dire la fille du Pharaon, il l'installa dans la ville de David en attendant ou avant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Alors c'est subtil, mais ça donne quand même l'impression que les priorités de Salomon n'étaient pas là où elles devaient être. Il a d'abord pensé à la fois, peut-être à la jolie princesse égyptienne, mais au-delà, à cette alliance politique avec l'Égypte, avant de faire ce qui était sa tâche première, ce qui était de bâtir une maison pour l'Éternel. Et puis ce détail éclaire aussi ce qu'on voit un peu dans la suite du texte. Si le peuple sacrifie dans des hauts lieux et apporte un culte à l'Éternel dans des hauts lieux, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, improvise son propre culte du Seigneur plutôt que de se conformer à la loi de Moïse, c'est parce que Salomon n'a pas pris la peine, pour l'instant, de construire un temple. Et donc, le peuple improvise un peu l'adoration de l'Éternel en bâtissant ses hauts lieux, l'espèce de temple extérieur, si on veut. Donc, tout cela nous montre que le jeune roi Salomon n'est pas si exemplaire que cela. Cela dit, il faut reconnaître que le verset 3 marque une rupture dans le récit et depuis, par rapport au début de ce livre des rois. Parce que malgré ses défauts, malgré ses infidélités déjà visibles, Salomon, verset 3, aimait l'Éternel. Et Salomon va montrer cela, il va montrer cet amour, alors que Dieu lui propose de demander ce qu'il veut, verset 5, il demande non pas la richesse ou la gloire ou le succès, mais la sagesse. Peut-être un mot d'abord sur cette étonnante proposition du Seigneur, demande-moi ce que tu veux. Certains pourraient s'en étonner un petit peu. Est-ce que Dieu se comporte un peu comme le génie d'Aladin lorsqu'il invite Salomon à lui demander ce qu'il veut comme cela ? Non, en réalité, le reste du texte montre qu'il s'agit d'une mise à l'épreuve en quelque sorte. Dieu a voulu donner à ce jeune roi l'occasion d'exprimer sa confiance en lui et de s'engager envers lui par ses paroles. Et d'ailleurs, c'est vrai pour nous aussi dans notre vie de prière. Dieu nous invite à lui présenter des requêtes, non pas parce qu'il a besoin d'informations de notre part, mais parce qu'il nous permet ainsi de nous en remettre à lui, de lui exprimer notre confiance et de s'engager par nos paroles. Il nous invite à une relation authentique, une relation personnelle avec lui. Mais j'en reviens à Salomon. Le début du livre des rois, de ce premier livre des rois, nous montre que jusque-là, il a recherché en premier lieu ses propres intérêts. Son palais, son mariage prestigieux, des règlements de compte politiques d'ailleurs, qui ne sont pas si différents, un peu quand même, mais que ceux qu'on trouve en France aujourd'hui. Mais dans un moment de lucidité spirituelle, il comprend, verset 3 et suivant, que sa vocation est ailleurs. Il se souvient qu'il est appelé à servir un Dieu qui est entré en relation avec son peuple, en alliance avec Israël. Il se rappelle que David, son père, a fait de la fidélité envers Dieu la priorité de son règne. David n'était pas un homme parfait, comme on le voit par ailleurs, mais David a fait de la relation avec Dieu la priorité de sa vie et de son règne. Et Salomon, manifestement, en est conscient. Et il prend conscience que connaître ce Dieu et vivre avec lui et pour lui le comblera bien mieux que tous les biens de ce monde. Et donc, il va demander à Dieu de le rendre sage, verset 9. Alors la question peut se poser, de quelle sagesse s'agit-il exactement ? Parce que les deux premiers chapitres des rois nous montrent un roi intelligent, habile sur le plan politique, et pourtant, manifestement, la sagesse lui manque encore. Dans ses célèbres proverbes, Salomon lui-même va expliciter ce qui met à part cette sagesse authentique. Proverbe 9-10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, dans la Bible, ce n'est pas la terreur, la peur panique. En même temps, c'est beaucoup plus que le simple respect, comme on le dit un peu trop facilement parfois. C'est plus que simplement du respect, c'est une profonde conscience de la grandeur de Dieu et de son autorité totale sur nos vies. Et c'est cette prise de conscience qui, selon les proverbes, est le point de départ de la sagesse véritable. Et il y a là quelque chose finalement de logique, de naturel. Lorsqu'on a compris qui est vraiment Dieu et quelle est son autorité sur nos vies, c'est naturel de vouloir accorder la priorité à rechercher sa volonté. C'est naturel de se dire, si Dieu est vraiment ce Dieu-là, alors il faut que j'aligne ma vie, si j'ose dire, que je réoriente ma vie pour lui obéir, pour l'adorer. Salomon comprend que la sagesse que donne ce Dieu saint, redoutable et bon, c'est le bien le plus précieux qu'il puisse demander. Il demande donc la sagesse parce qu'il désire la sagesse. Et ça, c'est une question que nous devons nous poser et que je nous pose ce matin. Est-ce que nous désirons la sagesse ? Nous vivons dans un monde qui valorise la passion du moment, la réalisation de soi, l'expérience à tout prix. Et nous voyons bien où cela nous mène. Anxiété, injustice, décisions inconsidérées, superficialité des relations. La sagesse est peut-être la vertu qui manque le plus au monde occidental. Plus que jamais, notre monde a besoin de sagesse et il nous pousse à vouloir tout sauf ça. Et la question se pose pour nous qui sommes chrétiens, qui reconnaissons en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, qui reconnaissons aussi en Jésus-Christ celui qui a parfaitement incarné la sagesse de Dieu, celui qui est lui-même la sagesse de Dieu et qui nous invite à le suivre et à connaître cette sagesse en lui. Est-ce que nous sommes prêts à penser autrement ? Est-ce qu'au lieu de rechercher l'expérience à tout prix ou le succès ou le plaisir d'un moment, nous sommes prêts à rechercher avant tout la sagesse ? Cette sagesse, on l'a dit, elle commence par la crainte de l'Éternel. Encore une fois, pas une crainte qui paralyse, mais au contraire, une crainte qui libère des fausses autorités qui nous asservissent, des idoles qui nous asservissent, qui remet aussi à leur place les puissances et les influences, même bonnes, de ce monde, et qui nous remet à notre place de créature, dont la vocation est de vivre avec son Créateur et pour lui. Et donc, je voudrais nous lancer ce matin un premier défi, qui est de désirer la sagesse. Et peut-être que nous devons demander à Dieu de nous aider à plus désirer la sagesse, à vouloir plus que tout connaître sa volonté, comprendre qui il est, à vivre notre vie selon ses priorités. Une fois qu'on désire cette sagesse, l'étape suivante est simple. Il s'agit de demander, tout simplement. Et ce sera donc notre deuxième point. La prière de Salomon, au verset 6 à 9, pourrait nous servir de modèle à certains à bien des égards. Salomon commence par exprimer sa reconnaissance à Dieu pour la fidélité de Dieu, pour l'alliance qu'il a conclue avec son peuple, Israël. Et on constate que dans sa prière, Salomon voit tout de suite plus loin que le bout de son nez, si j'ose dire. Il est conscient de l'œuvre vaste et souveraine de Dieu. Il ne pense pas simplement à ses circonstances personnelles, mais il voit tout ce que Dieu a fait. Et je crois que bien souvent, pas toujours, mais bien souvent quand nous prions, nous pouvons sauter cette étape. Je sais que pour ma part, c'est souvent le cas. Sauter cette étape pour passer tout de suite à ce que je veux demander à Dieu. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour des demandes qui sortent spontanément comme des cris du cœur et dans des situations de crise, de souffrance, et on en voit des exemples dans la Bible. Mais notre pratique régulière de la prière sera enrichie si nous commençons par une vision panoramique de l'œuvre de Dieu. comme le dit le cantique bien connu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Alors on associe tellement ce cantique au repas qu'on perd peut-être parfois le sens plus large de cela. Les bienfaits de Dieu, c'est effectivement un repas, mais tellement plus. Ce sont ces actes glorieux et puissants dans l'histoire. Dieu s'est révélé, il s'est fait connaître de nous, il nous a envoyé un Seigneur et un Sauveur parfait en Jésus-Christ. Comme Salomon, commençons dans nos prières par nous rappeler qui est Dieu et par nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Récemment, je lisais un article où quelqu'un encourageait les chrétiens, de temps en temps au moins, à commencer leurs prières par « au nom de Jésus » plutôt que de les terminer par cette formule, pour s'assurer en quelque sorte que ce qu'on va demander, c'est vraiment au nom de Jésus qu'on le demande, que c'est vraiment parce que nous voulons être fidèles à Jésus et parce que nous voulons honorer Dieu dans nos demandes. Je le dis comme ça en passant, c'était une suggestion intéressante. Salomon, lui, a compris qu'il pouvait demander cette sagesse. Il l'a désiré, il a compris qu'il pouvait la demander librement, mais il a commencé par rappeler qui est Dieu et par rappeler ce que Dieu a fait pour lui. Et il poursuit en reconnaissant son insuffisance totale devant Dieu, lui qui est pourtant le roi d'Israël, qui pourrait se targuer d'être quelqu'un d'extraordinaire, s'exprime au verset 7 de façon très humble, « Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. » Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Salomon se présente en toute humilité devant Dieu. Et pour nous aussi, c'est un point de départ essentiel pour nos vies de prière et dans notre recherche de la sagesse. Commencez par se rappeler que Dieu est Dieu et que nous sommes ses créatures. Ne pas se tromper dans l'ordre des choses. Nous sommes des créatures précieuses, aimées, bien sûr, mais dépendantes de Dieu, radicalement dépendantes de lui. Et Dieu est infiniment plus sage que nous. Il est même la source de toute sagesse. Et donc, il est juste et naturel de nous tourner vers lui pour demander la sagesse. Salomon donc commence par reconnaître cela, reconnaître qui est Dieu, puis reconnaître qui il est. Et ce faisant, il pose le bon cadre pour exprimer sa demande, le cadre de la crainte de l'Éternel, le cadre de la sagesse. Ce n'est pas la demande de quelqu'un qui réclame son dû auprès d'un patron récalcitrant. Ce n'est pas la demande d'un assuré spirituel qui réclame sa prestation. C'est la demande audacieuse, joyeuse, pleine de foi, d'un enfant à son Père céleste, d'une créature à son Créateur. Or, le texte nous montre que cette demande touche le cœur de Dieu. Un rappel que nos prières peuvent toucher Dieu, que Dieu ne les reçoit pas comme une sorte d'ordinateur, non, il réagit personnellement à nos prières, il les reçoit, il les entend. Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu explique pourquoi cette demande lui a plu. Verset 11, puisque tu ne réclames pour moi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Salomon a cherché les valeurs de Dieu plutôt que les siennes. Il a désiré la sagesse et il a demandé la sagesse. Alors qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous pouvons nous reconnaître dans l'expérience de Salomon ? On pourrait se dire, oui, mais bon, Salomon, c'est quand même pas n'importe qui. Il a joué un rôle particulier dans l'histoire d'Israël. Il a entendu de façon audible la voix de Dieu qui s'adressait à lui, etc. Et c'est là que nous en venons à Jacques chapitre 1. Un texte écrit à des chrétiens, lambda, si j'ose dire, comme nous. Jacques 1, verset 5, je reviens donc à ce deuxième texte. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Je ne sais pas si nous mesurons la force de ce verset. Je n'hésite pas à dire que ce verset a de quoi changer nos vies. C'est une promesse inattendue et stupéfiante. Vous avez besoin de sagesse, de la sagesse de Dieu. Vous n'avez qu'à demander. Et Dieu donne simplement et sans faire de reproche. Il n'y a pas tout un processus de lettre de motivation, de candidature. Demandez, Dieu donne simplement. Dieu nous dit ici que ce qu'il y a de plus précieux pour vivre nos vies, la sagesse qui vient de lui, Il n'a qu'une envie, c'est de nous la donner. Il suffit de lui demander. Mais là, certains diront, ah, mais attention, il y a une suite. Et c'est vrai, je lis à partir du verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Souvent, on lit ce verset comme s'il annulait presque la promesse magnifique du verset précédent. Comme si Dieu promettait quelque chose, mais ensuite nous donnait une condition tellement impossible que finalement ça annulait quasiment la promesse. Un peu comme ces publicités qui font miroiter quelque chose d'incroyable, et puis quand on regarde d'un petit peu plus près les conditions, etc., on comprend que finalement ça ne vaut rien. On pense cela, on peut penser cela en lisant ce verset, parce qu'on croit que Jacques nous invite ici à une sorte de record du monde de la foi, que personne n'a jamais réalisé. Il faut que j'arrive à prier sans le moindre doute, sans la moindre hésitation. Je pense que c'est mal comprendre l'intention de Jacques ici. Jacques ne dit pas que nous devons réussir à évacuer tout questionnement de notre foi. Le questionnement fait partie de la foi. Une lecture attentive de la lettre en entier, de la lettre de Jacques, montre que l'homme à l'âme partagée, ce n'est pas quelqu'un qui a des questionnements, voire des craintes. C'est quelqu'un plutôt qui ne sait pas ce qu'il veut. Il se dit que la sagesse de Dieu, c'est bien, mais que celle du monde, elle est pas mal aussi. Il demande la sagesse, mais ne la désire pas tant que cela, parce qu'il veut rester maître de sa propre vie. Il veut bien que Dieu lui donne un coup de main face à telle ou telle situation, mais n'a pas le désir profond de réorienter sa vie selon la crainte du Seigneur. C'est cet homme-là qui ne doit pas s'attendre à quoi que ce soit de la part de Dieu lorsqu'il présente sa demande. Et reconnaissons que trop souvent, nous pouvons ressembler à cet homme-là. Mais la promesse du verset 5 demeure, et elle demeure pour nous même lorsque nous avons réellement manqué de foi et douté dans ce sens-là où nous ne désirions pas vraiment la sagesse de Dieu. La promesse demeure, Dieu est généreux et il a envie de nous donner la sagesse. Alors nous pouvons désirer cette sagesse de tout notre cœur, nous pouvons la demander librement et Dieu nous la donnera librement, généreusement. Et ce que ce texte justement nous dit d'incroyable, c'est qu'il n'y a pas de suspense. Dieu dira oui. Dieu répond toujours oui aux prières qu'il nous invite lui-même à faire. Quand Dieu nous dit « Je veux que tu aies cela, plus de sagesse, et je t'invite à me le demander », c'est pas pour nous dire ensuite « Ah ah ah, finalement c'est non ». Il y a des choses, c'est vrai que nous demandons à Dieu, légitimement, et auxquelles nous ne savons pas comment Dieu va répondre. Beaucoup de choses. Des choses qui concernent notre vie pratique, notre santé, notre vie de famille. Et nous pouvons librement demander ces choses à Dieu. Mais Dieu nous invite à rechercher d'abord ses intérêts et à accorder notre priorité à ce qu'il dit lui-même dans sa parole vouloir nous donner. Il sait par ailleurs que nous avons besoin de lui dans tous les domaines du quotidien. Il nous invite aussi à lui présenter ces requêtes-là. Mais c'est intéressant de voir l'exemple de Salomon. Dieu lui accorde la sagesse, mais il choisit de lui accorder aussi tous les autres bienfaits qu'il n'avait même pas demandé. Alors en tant qu'Église, mais aussi chacun dans nos vies individuelles, apprenons à désirer la sagesse. Apprenons à réorienter nos priorités en recherchant vraiment ce qui fait la joie de Dieu, puis à demander la sagesse. Le bien le plus précieux qu'on puisse imaginer est disponible pour chacun d'entre nous aujourd'hui. La sagesse doit être désirée et demandée. L'exemple de Salomon, moins dans ce texte que dans le reste de son histoire, montre que cette sagesse doit aussi être cultivée. Et ce sera notre dernier point, très brièvement, en guise de conclusion. Cultiver la sagesse. Alors l'exemple de Salomon pourrait nous inquiéter un petit peu. Parce qu'on le voit dans ce texte, demander la sagesse sincèrement, semble-t-il. On voit que Dieu lui accorde, sans condition. Et pourtant, on sait que Salomon a plutôt mal fini. Il a multiplié les conquêtes sous couvert de polygamie tolérée à l'époque. Il s'est laissé fasciner par les idoles adorées par les femmes qu'il a épousées, au point de basculer dans une sorte de syncrétisme religieux, de mélanger un peu tout cela. Finalement, Salomon aurait été chez lui à notre époque à ce sujet. Croire en Dieu, pourquoi pas, mais à condition qu'il n'y ait pas d'engagement exclusif et que je puisse continuer à vivre comme je l'entends. Mais alors, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé et où est-elle cette sagesse? Est-ce que Dieu est revenu sur sa réponse à la prière de Salomon? Il me semble que la clé pour comprendre cela, c'est que Salomon a désiré la sagesse, il l'a demandée, mais il semble ensuite l'avoir considérée comme un acquis, quelque chose dont il pouvait faire usage quand c'était utile, plutôt que de cultiver cette sagesse au quotidien. Et nous aussi, nous avons tendance, je crois, à demander la sagesse de Dieu uniquement lorsque nous faisons face, par exemple, à une grande décision ou à une situation de crise, plutôt que de cultiver cette sagesse au quotidien. Faire cela, demander la sagesse de Dieu uniquement dans les situations exceptionnelles, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait courir un marathon et qui ne ferait jamais d'exercice physique le reste de l'année. Sans s'en rendre compte, on peut avoir tendance à voir la sagesse de Dieu comme une sorte de révélation ponctuelle, comme quelque chose que Dieu va nous donner tout d'un coup comme cela, alors que c'est plutôt à une vie de sagesse que Dieu nous invite, que Dieu nous appelle. Une vie dans laquelle nous recherchons constamment à faire ce qui lui plaît, en méditant les Écritures pour mieux connaître, mieux comprendre qui il est et quels sont ses projets pour nous et pour le monde. En cultivant des valeurs bibliques qui forgeront notre caractère, qui nous donneront les outils nécessaires pour prendre des décisions sages. Alors comment nous assurer que nous n'allons pas finir comme Salomon et que nous allons demeurer dans la sagesse de Dieu? D'abord, il nous faut bien sûr nous reposer sur la grâce de Dieu. Du début à la fin, nous n'y arriverons pas par nos propres forces et nous n'y arriverons pas parfaitement, loin de là. Mais ayant dit cela, le mode d'emploi de la sagesse, c'est assez simple. Désirer la sagesse et continuer à la désirer, voir en elle le bien le plus précieux. Demander cette sagesse, et pas simplement à quelques moments décisifs de la vie, mais régulièrement et pourquoi pas quotidiennement. Il n'y a pas un seul jour où on n'en a pas besoin. Alors demandons-la quotidiennement. Et puisque le début de cette sagesse, c'est la connaissance du Seigneur, de l'Éternel, eh bien ça va impliquer d'apprendre à mieux connaître l'Éternel, de nous mettre à l'écoute de sa parole régulièrement, par la méditation personnelle des Écritures, par l'enseignement reçu dans l'Église, dans divers cadres. Et l'Église, à ce sujet, est un cadre indispensable pour que nous puissions nous encourager les uns les autres à désirer, à demander et à cultiver cette sagesse. Alors, à l'approche de la rentrée, même si on n'y est pas tout à fait encore, mais bien au-delà, pour toute la vie, apprenons à désirer la sagesse, à la demander et à la cultiver. Dieu ne nous la refusera pas.